Je vais maintenant vous présenter notre conférencier, donc Michel Boinard. Michel Boinard est né en 1947. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université René-Descartes Paris 5. Il est praticien hospitalier à l'APHP. Il est responsable du diplôme interuniversitaire d'échographie organisé à l'Université Paris 5. Et enfin, il est expert auprès du ministère de la Santé dans le domaine de l'échographie et de l'instrumentation médicale. Michel Boinard est diplômé donc et docteur en sciences physiques et docteur en médecine. Concernant ses spécialités, il conduit des activités de recherche dans le domaine des ultrasons, donc plusieurs études, notamment sur les propriétés mécaniques du sang par ultrason, ainsi que sur les effets biologiques des ultrasons. Et donc, ces activités de recherche ont donné bien évidemment lieu à diverses publications et communications. Plus précisément concernant ces publications, Michel Boinard est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, et il a notamment publié, en collaboration avec messieurs Bourgeois et Espinasse, l'imagerie par échographie aux éditions Soran Médical en 1995. Je vais désormais céder la parole à Michel Boinard pour une cinquantaine de minutes et nous reprendrons après un débat avec le public pour une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de cette série de conférences organisées à l'Université de Tous les Savoirs et à la demande des organisateurs Yves Michaud et Gabriel Leroux, je vais vous parler aujourd'hui d'une technique d'imagerie médicale extrêmement répandue, intéressante à la fois pour le médecin et le praticien, car elle apporte une aide importante au diagnostic, intéressante également pour le public que vous êtes, car il s'agit d'une méthode très spectaculaire et qui pose un certain nombre de questions, aussi bien techniques qu'éthiques. Je veux parler donc de l'échographie. Alors, mardi dernier, à cette place même, André Braic disait que la conférence qu'il allait présenter allait être probablement l'une des plus onéreuses. Eh bien, aujourd'hui, je pense pouvoir vous dire que cette conférence sera l'une des moins onéreuses. Pourquoi ? Ben pour deux raisons. La première, c'est que le prix du matériel utilisé pour faire des images échographiques n'a aucune commune mesure avec ce qui est utilisé pour voir les confins de l'univers. Et puis la deuxième raison, c'est que je vais vous présenter, donc, pour illustrer mes propos, une série de diapositives. Je ne vais pas du tout utiliser les moyens actuels de vidéoprojection. Pourquoi l'université est pauvre ? Non, j'exagère. Tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile, même actuellement, de transférer des séries d'images d'échographes actuels sur micro-ordinateur de façon à les présenter. Et l'échographie, c'est tout de même avant tout la présentation de séquences d'images animées comme si on était devant notre appareil télévision. Je vous demande donc d'excuser la qualité d'un certain nombre de diapositives que j'ai quand même souhaité vous montrer pour illustrer mes propos. Alors, en préambule, on peut peut-être définir un certain nombre de termes qui sont importants par la suite. Tout d'abord, échographie. Alors, l'échographie, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'imagerie qui permet de faire l'image des propriétés mécaniques des tissus et plutôt d'une tranche de tissu. Donc, on devrait parler d'échotomographie. Tous les tissus ne peuvent pas être visualisés. Ce sont essentiellement les tissus mous, dits mous, qui sont visualisés. L'os ne peut pas faire l'objet d'image et les poumons qui contiennent de l'air non plus. Les ultrasons. Alors, les ultrasons, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des déformations vibratoires de l'espace qui se propagent sans transport de matière et qui sont en fait le support de l'information que l'on va récupérer sur les tissus. La gamme des fréquences qui sont utilisées dans le domaine de la médecine, c'est de l'ordre de quelques mégahertz à une quinzaine de mégahertz. Et le choix de la fréquence, lorsque l'on fait un examen échographique, en fait, c'est le compromis c'est le résultat d'un compromis entre le pouvoir de pénétration des ultrasons, qui augmente lorsque la fréquence diminue, et la qualité de l'image échographique, qui augmente lorsque la fréquence augmente. Donc, lorsque l'on fait des images des tissus situés en profondeur, on va plutôt privilégier la pénétration des ultrasons. On veut utiliser des ondes plutôt de basse fréquence, alors que si on fait l'image des tissus situés en périphérie, en superficie, on va utiliser des ondes des ultrasons haute fréquence et donc une meilleure qualité d'image. Le signal échographique, lui, sert donc à faire l'image échographique. En fait, c'est le résultat des interactions entre l'onde ultrasonore qui se propage dans les tissus et les tissus biologiques. Il existe deux types d'interactions, réflexion, diffusion, comme en optique. Alors, la réflexion sera importante pour la formation de l'image échographique lorsque elle renvoie une information vers l'émetteur, on va le revoir, et la diffusion, en fait, qui est la réémission dans tout l'espace par les tout petits objets de l'énergie incidente, va permettre d'avoir des informations sur la structure interne des tissus. Alors, deux types d'imagerie peuvent être obtenus. D'une part, l'échotomographie, donc, il s'agit de l'image anatomique d'organes qui est obtenue par détection d'amplitude du signal échographique et qui est due aux différences de propriétés mécaniques, donc, des tissus les uns par rapport aux autres. La deuxième technique, c'est ce que l'on appelle l'imagerie Doppler couleur, ou bien imagerie couleur des écoulements, ou bien imagerie couleur des flux, qui est en fait une imagerie couleur du sang circulant dans les vaisseaux et qui est obtenue par une analyse en fréquence Doppler, du signal échographique, et ces fréquences Doppler étant dues à la vitesse du sang s'écoulant dans les vaisseaux. Alors, on va voir un petit peu plus en détail la technique de formation de l'image échographique. Bon, on utilise ce qu'on appelle une sonde qui contient en fait un élément important, c'est un élément piézoélectrique qui va transformer l'énergie électrique en énergie acoustique et inversement. Donc, cette sonde va recevoir une impulsion électrique, va la transformer en impulsion acoustique qui se propage jusqu'à interagir avec un obstacle. Et l'obstacle va renvoyer une fraction de l'énergie. Ce n'est que lorsque l'énergie réfléchie est revenue sur la sonde que l'on va pouvoir mettre aux bornes de la sonde un signal témoin de cette interface. Donc il faut bien avoir à l'esprit que cette image, en mode échographique A, amplitude en fonction de la profondeur de pénétration ou du temps que l'on met l'impulsion pour parcourir la distance sonde obstacle aller-retour, est obtenue par la mesure du temps de transit, donc, et l'échographe présentera cet obstacle à la bonne position sur l'image. Ce mode échographique A, qui est tout simplement la représentation de l'amplitude du signal en fonction du temps, on va le transformer en mode B comme brillance, qui va permettre de faire des images. Qu'est-ce que l'on fait ? On transforme tout simplement cet écho en un point brillant, la brillance du point dépendant de l'amplitude de l'écho. Et puis, avec ce mode B, qui est donc toujours unidirectionnel, eh bien, on va faire une image en balayant la sonde dans différentes directions parallèles les unes aux autres. Et au total, donc, l'image de la tranche de tissu pourra être repositionnée correctement par rapport à la sonde. Il existe deux types de balayage. D'une part, le balayage lent ou manuel, que l'on retrouvait il y a quelques années, au tout début de l'échographie, et actuellement, le balayage temps réel ou rapide. Alors, cette diapositive veut vous illustrer comment on obtenait une image échographique à l'aide du balayage manuel. On a une sonde, donc, qui est positionnée à la surface de la peau, qui tire dans une certaine direction. En mode B, on récupère les informations dans cette direction. Et puis manuellement, on change la position de la sonde, on tire dans cette direction, on récupère les informations, etc. Et en utilisant une mémoire à l'époque analogique, on arrivait à récupérer toutes les informations donc de la tranche de tissu définie par le balayage du champ ultrasonore. Actuellement, on utilise des appareils donc temps réel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont faire une image échographique en 40 millisecondes à peu près à la fréquence télévision, de façon à ce que l'observateur puisse voir une séquence d'images animées. Alors la différence de tous ces appareils, de toutes ces sondes, en fait, c'est le type de balayage. Il existe un premier balayage que l'on appelle le balayage sectoriel. Donc la sonde va émettre ses ultrasons le long d'un secteur, l'image que l'on va obtenir sera sectorielle. Un deuxième type de balayage est le balayage linéaire, bon, essentiellement électronique. La formation de l'image, elle, est rectangulaire. Et un troisième type de balayage, trapézoïdal, obtenu à l'aide d'une, ce qu'on appelle une sonde convexe, qui allie à la fois, si vous voulez, les avantages du balayage linéaire et les avantages du balayage sectoriel. Passons maintenant à l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène qui fait que lorsque l'on envoie une onde ultrasonore vers un obstacle en mouvement, cet obstacle va renvoyer l'onde à une fréquence différente. La différence de fréquence entre la fréquence de l'onde incidente et la fréquence de l'onde réémise, c'est la fréquence Doppler. Alors on peut comprendre ce phénomène facilement à l'aide de ce petit schéma. Imaginez un observateur situé sur un phare, donc au repos, qui voit arriver sur lui les vagues à une certaine fréquence. Si maintenant l'observateur est situé sur un bateau qui se déplace vers la droite à une certaine vitesse, la fréquence des vagues qu'il va voir arriver est plus importante. Donc la différence de fréquence entre la fréquence qu'il voit arriver lorsqu'il est au repos et la fréquence qu'il voit arriver sur le bateau lorsqu'il est en mouvement, c'est la fréquence Doppler. Et cette fréquence Doppler est directement liée à la vitesse de déplacement de l'obstacle. Donc c'est ce phénomène qui est utilisé tout simplement pour coder en couleur les fréquences Doppler ou bien, ce qui revient au même, les vitesses d'écoulement du sang dans les vaisseaux. Dans un premier temps, on va faire une détection Doppler selon une direction à l'intérieur de fenêtres électroniques, et puis on va balayer le champ ultrasonore selon un plan de façon à obtenir une véritable cartographie des vitesses dans ce plan. Et puis, la dernière étape, c'est la superposition de l'image échographique anatomique que je vous ai présenté au départ, et de l'image Doppler couleur, de façon à repositionner l'écoulement du sang à l'intérieur des vaisseaux. Quelles sont les informations que l'on peut en tirer? En ce qui concerne l'échographie, on va avoir des informations concernant la morphologie et la structure des organes. Le contour des organes sera donné par la réflexion. La structure interne des organes sera donnée par la diffusion. Sur ces images, on va bien sûr pouvoir faire des mesures de longueur, des mesures d'épaisseur. En ce qui concerne l'imagerie couleur des flux, qu'est-ce que l'on va obtenir comme renseignement? On va voir le sang s'écouler dans les vaisseaux. Et sur ces images, on va aussi pouvoir faire des mesures de vitesse d'écoulement du sang, ou bien des mesures de débit. Le débit, je vous rappelle, c'est la section qui multiplie la vitesse. La vitesse, on la connaît par effet Doppler, la section, on la connaîtra par l'imagerie anatomique noir et blanc. La sémiologie échographique de base qui est utilisée, en ce qui concerne l'imagerie échographique, il existe deux types de tissus. Des tissus que l'on appelle anéchogènes, qui ne renvoient pas l'onde acoustique incidente, donc qui ne vont pas donner d'image. Ce sont des tissus qui sont homogènes vis-à-vis de la longueur d'onde que l'on utilise. Ce sont essentiellement les liquides. Et puis à côté de ça, il existe des tissus échogènes qui donnent donc un signal échographique, qui sont dus aux tissus biologiques mous, donc inhomogènes, non homogènes par rapport à la longueur d'onde, et ce sont essentiellement les solides. On peut distinguer d'ailleurs différents tissus biologiques donnant des échogénicités différentes. Maintenant, pour ce qui concerne l'écoulement du sang, quelles sont les informations que l'on va pouvoir obtenir? C'est d'une part la direction du flux. On va savoir si le flux s'écoule dans une direction ou dans une autre, et on codera cette information à l'aide de couleurs différentes. Classiquement, lorsque le sang se rapproche de la sonde, le codage sera rouge. Lorsque le sang s'éloigne de la sonde, le codage sera bleu. On va coder également l'amplitude des vitesses dans un sens ou dans un autre. Ce codage se fera par l'intensité de la couleur, soit l'intensité du bleu, soit l'intensité du rouge. Et puis on codera également la turbulence de l'écoulement, s'il y en a, par la mesure de la variance des vitesses, et ce codage se fera par la couleur verte. Quelles sont les différentes évolutions techniques qui ont vu le jour depuis une trentaine d'années, disons, que l'échographie est utilisée en routine? Alors, on peut distinguer trois types de matériel, hein, des appareils de première génération, de deuxième génération, troisième génération. Les appareils de première génération ont essayé, ont permis, dans la mesure du possible, de présenter des informations qui étaient recueillies à partir des tissus biologiques. Alors, on verra par la suite, hein, quelques exemples illustrant le mode échographique A, donc amplitude en fonction de la profondeur de pénétration, les modes B d'imagerie. Deuxième catégorie, les appareils de deuxième génération, qui, eux, se sont efforcés d'améliorer la qualité de l'image échographique. Améliorer en focalisant le champ ultrasonore, bien sûr, en améliorant les résolutions, en particulier la résolution latérale, en numérisant le signal échographique à l'aide des techniques actuelles et améliorer de cette façon le rapport signal sur bruit, en utilisant des sondes multifréquences qui permettent d'obtenir à la fois la résolution idéale en surface et en profondeur, et en utilisant également des sondes dites endocavitaires qui seront avalées, je dirais, par le patient ou introduites dans les cavités naturelles de façon à se rapprocher le plus possible de l'organe que l'on souhaite visualiser. Et puis, un dernier groupe d'appareils, donc de troisième génération, qui permettent d'augmenter, si vous voulez, la quantité d'informations présentes au médecin lors de l'examen échographique. Bon, bien sûr, c'est l'association imagerie anatomique, imagerie couleur des flux. C'est la présentation 3D. C'est également l'imagerie Doppler puissance. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on verra quelques exemples l'illustrant. Alors voilà, par exemple, le premier mode échographique qui a été utilisé. C'est ce que l'on appelle l'échoencéphalographie A. C'est un mode A qui a été utilisé pour voir les éventuels déplacements des structures cérébrales. C'est ce que l'on utilisait il y a 30 ans. Et puis très rapidement est venue l'échographie à balayage manuel. Alors voilà un exemple d'échographe, la sonde ici, l'électronique associée, puis un bras articulé qui permet de déplacer la sonde uniquement dans un plan. Voilà donc le bras articulé qui est en fonctionnement, qui va permettre de faire l'image, dans le cas particulier, d'une tranche de tissu longitudinale. Alors les tout premiers résultats qui ont été obtenus l'ont été en tout ou rien, c'était ce qu'on appelle des appareils bistables. On obtenait une information ou on n'en obtenait pas. Donc vous voyez effectivement que l'information ici est très fruste. Hein. On a un signal ou on n'a pas de signal. Donc très rapidement a été introduite ce que l'on appelle l'échelle de gris, qui a permis donc de visualiser le signal échographique à l'aide de niveaux de gris, d'un certain nombre de niveaux de gris, disons une vingtaine, hein, entre le signal le moins ample et le signal le plus ample, de façon à avoir une image de qualité bien meilleure, hein, par rapport à ce que l'on obtenait avec un échographe bistable. Et puis donc les échographes actuels, temps réel, un exemple vous en est présenté ici, une sonde. Ici on a affaire à une sonde, à une barrette à balayage linéaire électronique, l'électronique associée et puis un câble souple donc, qui relie la sonde à l'échographe. Les images obtenues, bien sûr, sont spécifiques du type de balayage. Alors il faut vous attacher sur les trois prochaines diapositives uniquement à la forme de l'image, hein, pas au contenu. Vous avez ici une image de type sectoriel, on voit parfaitement bien. L'image suivante est une image obtenue par une barrette à balayage électronique linéaire. La sonde étant positionnée en haut, la profondeur en bas, la forme de l'image est rectangulaire. Et puis, le dernier exemple, c'est le balayage obtenu à l'aide d'une sonde convexe. La sonde est positionnée ici, la profondeur vers le bas. Les ultrasons donc se propagent du haut vers le bas. Alors, voyez au passage qu'il est possible donc de faire des mesures de longueur, de diamètre, etc. L'imagerie Doppler couleur. Quelques exemples l'illustrant. Alors voilà ici, par exemple, une des toutes premières images qui a été obtenue. La sonde est positionnée en haut, la profondeur en bas. On est ici dans un foie. Et ce que l'on visualise, ce sont les vaisseaux intrahépatiques, les veines sous-hépatiques. Alors on ne voit pas très bien ici, mais on a des vaisseaux présentés en rouge, des vaisseaux présentés en bleu. Le sang ici passe de la gauche vers la droite. Mais les vaisseaux présentés en bleu voient le sang circuler de haut en bas, c'est-à-dire s'éloigner de la sonde, donc la présentation se fait en bleu. Par contre, dans les veines sous-hépatiques inférieures, le sang va remonter vers la sonde et l'image sera donc rouge. Un exemple plus récent est celui donné par des vaisseaux cervicaux. Par exemple, ici, l'artère carotide primitive, ici la veine jugulaire. Alors, il se trouve que l'artère est effectivement présentée en rouge, la veine en bleu, mais c'est tout simplement parce que le sang ici se rapproche de la sonde et là s'en éloigne. Et puis, pour illustrer le dernier groupe d'appareils qui permettent d'augmenter la quantité d'informations que l'échographiste va pouvoir avoir à sa disposition, c'est donc un exemple d'imagerie Doppler couleur, un exemple d'imagerie Doppler puissance. En fait, on va mesurer, à l'aide de cet appareil, la puissance totale diffusée par le sang en écoulement. On va sommer sur toutes les fréquences Doppler. On va perdre l'information de la direction de l'écoulement, mais on va être beaucoup plus précis. Et on peut voir de cette façon des tout petits vaisseaux de l'ordre du le sang contenu dans les vaisseaux de l'ordre du millimètre. Et en bas, c'est ce que l'on appelle la spectrométrie Doppler. C'est tout simplement la courbe des vitesses qui est mesurée à l'intérieur de cette petite fenêtre électronique en fonction du temps. Et on voit régulièrement les impulsions correspondant au battement cardiaque. Alors on en arrive maintenant à la conduite pratique d'un examen échographique. La première chose, bien sûr, c'est de préparer le patient. Très peu de choses à faire. En échographie abdominale, on va demander au patient d'être à jeun. Pourquoi ? Pour éviter les gaz intestinaux. Les gaz intestinaux arrêtent totalement la propagation des ultrasons. Et en échographie pelvienne, on va demander au patient d'avoir la vessie pleine. Là aussi, pour permettre la propagation des ultrasons et pour avoir des repères anatomiques plus faciles à voir. Ensuite, l'échographiste, il va essayer de faire son image. Alors, le premier choix qu'il a à faire, c'est le choix de la sonde. Le choix de la sonde va imposer la fréquence des ultrasons, le type de balayage. Donc, je répète, si on veut faire l'image de tissu situé en profondeur, on va utiliser des sondes plutôt basse fréquence, 3,5 mégas, 5 mégas. Si on veut faire l'image de tissu situé en profondeur, on va pouvoir monter jusqu'à 8, 10, 12 mégas. Le type de balayage maintenant, sectoriel, linéaire ou trapézoïdal. Bien là aussi, ça va dépendre de l'organe que l'on veut visualiser. Si on veut faire une échographie abdominale, si on veut faire une échographie obstétricale, on utilisera plutôt une sonde à balayage linéaire pour augmenter la quantité d'informations et avoir une image rectangulaire. Par contre, si on fait de l'échographie gynécologique ou bien si on fait de l'échographie cardiaque, on est obligé pour voir le cœur de passer entre deux côtes, donc on va choisir plutôt l'échographie sectorielle, le balayage sectoriel. Une fois que ce choix est fait, on va poser la sonde sur la peau du patient en ayant soin, bien sûr, de ne pas oublier d'interposer un gel entre la sonde et la peau pour permettre la propagation des ondes ultrasonores à l'intérieur du corps. S'il n'y a pas de gel, les ultrasons ne pénétreront pas. Une fois que la sonde est positionnée, on va l'orienter de façon à choisir le plan de coupe dont on veut en faire l'image. Et puis, de façon continue, pendant tout l'examen, il faudra utiliser des réglages de gain. Alors, je ne vous en ai pas parlé, effectivement. Lorsque l'onde ultrasonore pénètre à l'intérieur du tissu, elle s'atténue. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de sa pénétration, elle va perdre de l'énergie. Donc, pour pouvoir comparer des structures identiques situées en surface ou situées en profondeur, il va falloir ce que l'on appelle amplifier en profondeur, amplifier plus les échos qui proviennent de la profondeur que les échos qui proviennent de la surface. Et il va falloir adapter cette amplification en profondeur en fonction des tissus traversés. Et puis, on va choisir donc ensuite le mode de présentation des informations. Alors, première étape, on pose la sonde sur la peau. Cette présentation de sonde va donc permettre de faire l'image d'une coupe longitudinale. On voit ici une aorte. Donc, vous voyez au passage un échogène en coupe longitudinale. Ici, la sonde est positionnée perpendiculairement, donc l'aorte va être coupée selon sa section. Et puis, pour chaque position de la sonde, on va induire à celle-ci une certaine obliquité pour choisir le bon plan de coupe de façon à avoir l'image que l'on souhaite. Soit on déplace vers la droite, soit on déplace vers la sonde, vers la gauche la sonde, l'image étant celle de la tranche de tissu située juste devant. Et puis pareil, bien sûr, pour une sonde positionnée transversalement, soit on l'oriente vers le bas pour faire l'image de la tranche de tissu située vers le haut ou inversement. Alors, un autre intérêt de modifier l'incidence de la propagation des ultrasons par rapport au tissu, c'est d'obtenir une meilleure visualisation. Alors ici, vous avez par exemple donc, un foie, un rein, le diaphragme, et les ultrasons se propagent dans cette direction, la sonde étant située là. Eh bien, vous voyez que le contour du rein, là, est visible au niveau de du point d'impact, si vous voulez, du champ ultrasonore avec l'interface. On ne peut pas voir, tout simplement parce que l'onde réfléchie va revenir vers l'émetteur. On ne va pas pouvoir voir ici le pôle supérieur du rein parce que les ultrasons réfléchis seront réfléchis dans une direction autre que la direction de la sonde. Alors on passe maintenant à l'influence du choix de la fréquence des ultrasons sur l'image échographique. On a obtenu cette image à l'aide d'une sonde de fréquence 3,5 MHz. Donc c'est une sonde pour faire de l'imagerie, c'est une fréquence pour faire de l'imagerie abdominale. Lorsque l'on augmente la fréquence de la sonde, que l'on passe par exemple à 5 MHz, c'est-à-dire on change de sonde, vous voyez que l'on va perdre des informations en profondeur, mais on va améliorer la qualité de l'image en surface. La résolution en surface est bien meilleure. Par contre, on n'a aucune information en profondeur. Et puis, si on augmente encore plus la fréquence des ultrasons, on perd complètement les informations données par la profondeur et on obtient uniquement des images données par les tissus superficiels. Autre réglage important, comme je vous l'ai dit, c'est le réglage du gain. Le gain en profondeur peut être réglé par tranche de tissu de la surface vers la profondeur à l'aide de plusieurs potentiomètres linéaires. Eh bien, ici, on a obtenu une image échographique faite à partir d'un mauvais réglage du gain en profondeur. Donc, on ne voit aucune information vers le diaphragme. Par contre, on visualise à peu près correctement les tissus situés en surface. À l'inverse, eh bien, on peut faire des images avec un gain correct en profondeur. Par contre, si le gain est insuffisant en surface, on ne pourra pas faire l'image des tissus situés en surface. Ici, bon, bah, c'est un mauvais réglage de gain de la surface vers la profondeur, on a trop amplifié le signal échographique, on ne peut faire aucune interprétation sur cette image. Et enfin, donc, un réglage de gain correct, présenté sur cette diapositive, c'est un réglage qui permet d'obtenir des échos régulièrement répartis de la surface vers la profondeur et en amplitude du niveau de gris le plus faible vers le niveau de gris le plus élevé. Donc vous voyez que obtenir une image échographique, ça peut paraître simple, mais il faut quand même avoir une certaine habitude, d'autant que l'échographiste peut être confronté à un certain nombre de difficultés intrinsèques à la technique sur lesquelles il ne peut strictement rien. Vous avez des patients qui ne sont absolument pas échogènes. Les ultrasons ont du mal à pénétrer, donc on obtiendra des images de très très mauvaise qualité. Certains organes seront mal positionnés par rapport à la direction de la sonde. Je pense par exemple dans le cas où on veut mettre en évidence des éventuelles malformations fœtales, par exemple, il faut chercher obligatoirement le bon plan de coupe pendant un certain temps. Et si des structures osseuses s'interposent, on ne pourra pas voir ce que l'on souhaite voir. La présence de gaz intestinaux, là aussi, arrêtant complètement la propagation des ondes ultrasonores, on ne pourra pas faire d'image échographique. Bon, les structures osseuses, les calcifications, c'est pareil. Il existe un certain nombre de fausses images qu'il faut savoir reconnaître et ne pas prendre pour des images correspondant à la réalité. C'est ce que l'on appelle des artefacts. Je vais vous en présenter un exemple. Et puis, le cas particulier de l'imagerie Doppler couleur associée à l'imagerie anatomique, c'est que pour visualiser par effet Doppler l'écoulement du sang dans les vaisseaux, ce qu'il faut, c'est être au maximum parallèle à la direction de l'écoulement. Pour visualiser les parois des vaisseaux, au contraire, il faut être perpendiculaire à la paroi. Donc, on ne va pas pouvoir à la fois obtenir une bonne image échographique du contour des vaisseaux et une bonne image éco-Doppler du flux sanguin à l'intérieur de ceux-ci. Donc, il faut choisir un compromis entre ces deux incidences, mais obligatoirement, ce sera au détriment de l'image échographique. De plus, il existe des difficultés d'interprétation, bien sûr, une fois que l'image échographique est obtenue. Difficultés d'interprétation qui peuvent être liées à des modifications de repères anatomiques, bien sûr, dans telle ou telle pathologie, à des modifications de l'aspect échographique habituel du tissu, ou bien, si on a fait une image avec la présence d'un gaz ou la présence d'une structure osseuse, il va bien falloir essayer tout de même d'interpréter cette image. Donc, surtout ne pas hésiter à revoir le patient plusieurs fois si on obtient des images de qualité médiocre ou même à demander un autre avis. Alors voilà par exemple une image échographique obtenue à partir d'un foie. Alors, je vous promets, même un échographiste averti a du mal à interpréter cette image. Alors, on devine ici un écho important, ici ce que l'on appelle une ombre acoustique, donc ça doit probablement être un calcul dans la vésicule biliaire. On observe ici des canalicules anéchogènes un petit peu dilatées, donc ça doit probablement être des voies biliaires intrahépatiques, mais vous avouerez que l'interprétation d'une telle image n'est pas facile. Voilà l'exemple donné donc par un caillou dans la vésicule biliaire avec une ombre acoustique en arrière beaucoup plus marquante que l'image précédente, bien sûr. Et s'il existe des structures sur le trajet au niveau de ces ombres, de cette ombre acoustique, eh bien, on ne pourra pas les mettre en évidence sous forme d'image. Et puis pareil avec les gaz intestinaux. On a ici donc une coupe longitudinale de l'abdomen, le foie, des gaz intestinaux ici, qui arrêtent totalement la propagation des ondes ultrasonores. Et toutes les structures qui sont situées ici ne pourront pas être visualisées, les ultrasons revenant en arrière étant réfléchis par les gaz. Alors voilà l'exemple d'artefacts que l'on peut obtenir. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. Un foie, le diaphragme, et puis cette image échogène ici, due à une tumeur bénigne, on a l'image symétrique par rapport au diaphragme qui est situé ici. Cette image, en fait, c'est un artefact et elle ne correspond à aucune réalité à l'intérieur du foie. Elle est due tout simplement à une propagation différente des ultrasons entre la sonde et le diaphragme pour former ces deux images. Alors, on en arrive maintenant aux différentes applications, différents domaines d'application de la technique. Alors, comme je vous l'ai dit au début, pratiquement tous les tissus mous peuvent faire l'objet d'images échographiques, en dehors du poumon qui contient de l'air et en dehors du squelette, bien sûr, de l'os, qui arrête totalement la propagation des ultrasons. Alors, au niveau de l'abdomen, vous voyez que pratiquement tous les organes peuvent être visualisés. Hein. Le foie, la vésicule, voie biliaire, pancréas, rate, tube digestif, gros vaisseau, les reins. Au niveau du pelvis, bien sûr, le domaine de prédilection, c'est la grossesse, mais on peut voir aussi l'utérus, les ovaires, etc. Au niveau du thorax, le domaine privilégié en particulier pour l'imagerie Doppler couleur, c'est le cœur. Et puis, on peut également faire l'image de tissus superficiels, les muscles et les tendons, le thyroïde, parathyroïde, etc. L'imagerie couleur des flux va permettre, elle, de faire l'image du sang à l'intérieur de pratiquement tous les vaisseaux. Bon, le cœur, bien sûr, les cavités cardiaques, les gros vaisseaux abdominaux, hein, comme on va le voir, les vaisseaux irriguant pratiquement tous les organes, les vaisseaux cervicaux, les vaisseaux des membres, etc. Voilà donc une image échographique normale d'un foie, du diaphragme, la sonde étant positionnée ici, la profondeur ici. Donc on voit l'échogénicité normale d'un foie avec ici les veines sus-hépatiques, c'est donc du sang absolument anéchogène. À l'opposé, voilà une image échographique d'un foie anormal, dans lequel on peut mettre en évidence des paquets de nodules hyperéchogènes, ici, donnés par tel ou tel type de pathologie. Là, on peut faire des hypothèses diagnostiques importantes. Alors, cette image, pour vous montrer, pour vous rappeler en fait que le diagnostic de l'ityase de la vésicule biliaire en fait, est relativement simple à faire, il suffit de poser la sonde sur la peau en regard de la vésicule pour mettre en évidence ici le caillou suivi d'une ombre acoustique. La bile anéchogène est visualisée en noir. Il est parfois difficile de mettre en évidence certains calculs, en particulier des calculs du Cholédoc. Alors pour cela, on utilise donc la technique de sonde endoscopique. On fait avaler au patient une petite sonde que l'on place dans le tube digestif en regard du Cholédoc. Et le Cholédoc est ici et on voit à l'intérieur du Cholédoc une lithiase donc, que l'on ne pourrait absolument pas voir par abord abdominal transcutané. Un autre exemple d'échographie abdominale, c'est le pancréas. L'échographie a été l'une des premières techniques à permettre la visualisation du pancréas. Donc la sonde est en haut, la profondeur en bas, et le pancréas, c'est donc cet organe-là, hyperéchogène par rapport au tissu avoisinant. On a affaire ici à une coupe transverse de l'abdomen, et on peut parfaitement distinguer cet organe. Un autre exemple, c'est le rein, bien sûr, hein, où on peut mettre en évidence sa structure interne, ici, sa structure corticale. Vous voyez au passage qu'on peut faire des mesures de longueur, des mesures d'épaisseur, etc. Et si donc, sur ce rein, on se retrouve avec une image anormale comme celle-ci, un kyste, c'est une structure qui contient du liquide, donc qui est anécogène, qui est présentée en noir, ben, on peut très facilement la mettre en évidence. On peut aussi la mesurer. Les gros vaisseaux abdominaux. Alors, les gros vaisseaux abdominaux, on a intérêt, bien sûr, à essayer de les visualiser en Doppler couleur. Vous voyez ici deux vaisseaux, l'un présenté en rouge, l'autre en bleu. Donc, à l'évidence, le sang coule dans des directions opposées. Il s'agit de l'aorte et de la veine cave. Et puis, ici, donc, une aorte qui est dilatée, c'est ce qu'on appelle un anévrisme de l'aorte. L'aorte, les contours de l'aorte font ceci. Le sang à l'intérieur de l'aorte ne s'écoule que dans ce petit chenal qui s'est formé à l'intérieur de cette structure que l'on ne peut pas bien visualiser, qui paraît liquide, mais en fait qui est très très peu échogène et qui est un caillot. Alors, deuxième domaine d'application, l'échographie pelvienne, qui permet de visualiser, bien sûr, l'utérus, comme ici, avec la vessie en avant, la sonde étant située ici, le contour de l'utérus, le voilà. Et puis, en imagerie couleur puissance, il est possible de mettre en évidence la circulation du sang à l'intérieur de cet organe, et vous voyez que l'irrigation est tout de même très très riche, hein, et on peut voir des tout petits vaisseaux. Alors, la grossesse, bien sûr, au début, il est possible de mettre en évidence l'embryon, de le mesurer, de mesurer sa longueur. Il est possible, par la suite, de mettre en évidence des structures que l'on reconnaît un petit peu mieux, hein, comme une main, ici. Vous voyez que l'on peut dénombrer le nombre de doigts, le nombre de phalanges, presque à l'intérieur de la main. De la même façon, pour un pied, vous voyez le pied qui est très bien visualisé ici, bien sûr, à partir du moment où la coupe échotomographique passe par la main ou par le pied. Et puis, la même chose pour une colonne vertébrale, où il est possible de dénombrer, là aussi, le nombre de vertèbres et savoir si on a affaire à une image pathologique ou non. Cette image montre la tête d'un fœtus, donc in utero, avec l'image échographique et en Doppler couleur, on peut mettre en évidence la circulation du sang à l'intérieur de la tête du bébé. Bon, malheureusement, existent également des anomalies, comme ici, où on peut mettre en évidence une absence de cerveau. La tête du fœtus est ici beaucoup plus petite que ce qu'elle devrait être, l'abdomen étant situé ici. Des malformations au niveau du cerveau. Vous voyez que cette partie inférieure du cerveau n'est pas symétrique à la partie supérieure, donc une malformation à ce niveau-là. Voilà ce qui termine donc l'application dans la grossesse. Maintenant, en ce qui concerne l'échographie Doppler couleur, le domaine privilégié, comme je vous l'ai dit, c'est la cardiologie, bien sûr, où on peut mettre en évidence le sang, comme ici, circulant à l'intérieur des cavités. On a ici l'oreiller gauche, le ventricule gauche, l'oreiller droite, le ventricule droit, et on voit que le sang s'éloigne de la sonde. On peut également étudier ce que l'on appelle les jets sanguins à l'intérieur du cœur, au passage des différentes valves qui sont situées entre les oreillettes et les ventricules. Vous voyez ici que le jet du sang est beaucoup plus important que là. Et on peut faire des mesures de vitesse à l'intérieur de ces jets. On peut également mettre en évidence ce que l'on appelle des régurgitations, c'est-à-dire des retours du sang en arrière, comme ici, au niveau de cette valve. Donc une puissance de diagnostic tout de même intéressante et une aide précieuse au diagnostic du Doppler couleur dans le domaine de la cardiologie. Alors voilà un exemple de vaisseau superficiel, la carotide primitive et sa bifurcation, carotide interne, carotide externe, en coupe longitudinale, en coupe transverse, et superposer ici l'imagerie couleur des écoulements. Donc vous voyez qu'on peut parfaitement étudier cette bifurcation qui est tout à fait normale. Par contre, si il existe des plaques d'athérome contre les parois, ben on peut les mettre en évidence. Voilà un exemple de plaque d'athérome, ici, cette image échogène, suivie d'une ombre acoustique parce que cette plaque est calcifiée, donc arrête partiellement la propagation des ultrasons, associée à l'imagerie couleur des flux. Vous voyez ici que cette plaque d'athérome ne perturbe pratiquement pas l'écoulement du sang à ce niveau. Par contre, si la plaque d'athérome est beaucoup plus importante, si on a ce que l'on appelle une sténose serrée, due à une plaque que l'on peut visualiser ici pour sa berge inférieure et ici pour sa berge supérieure, eh bien, vous voyez à ce niveau une augmentation des vitesses d'écoulement. Bien sûr, la section diminuant, le sang doit circuler à une vitesse plus importante. Cette augmentation de vitesse d'écoulement est visualisée sous forme de couleur jaune. Et puis, au niveau de la sténose, là, on a également du vert. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette couleur verte représente les turbulences du sang à ce niveau. Et puis, pour boucler la boucle, je dirais, vous vous rappelez que l'une des toutes premières images que je vous ai présentées, c'était l'échographie cérébrale, mode A. Eh bien, voilà ici ce que l'on obtient chez l'adulte, au niveau du crâne. Bon, on peut visualiser, faire l'image du cerveau, mais on peut également, chez l'adulte, voir, mettre en évidence la circulation du sang. Et ceci, en fait, depuis un très très petit nombre d'années. Bon, quel est maintenant l'avenir de l'échographie? Alors, sur le plan technique, vous avez pu vous apercevoir qu'il existait de grosses améliorations entre ce que l'on obtenait il y a une trentaine d'années et puis ce que l'on peut obtenir maintenant. Les améliorations futures ne seront certainement pas de ce calibre-là. Ce à quoi on peut penser, c'est surtout une présentation peut-être différente de l'information, mais surtout d'autres types d'imagerie. Alors peut-être que Geneviève Berger vous en a parlé hier, mais tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui concernant l'échographie, c'est de l'échographie de réflectivité, du pouvoir réflecteur des tissus. Il est possible, dans l'avenir, de pouvoir faire l'image localisée, donc dans l'espace, de la célérité des ultrasons ou bien du coefficient d'atténuation des ultrasons. On fera de véritables images, cartographies, de ces paramètres acoustiques qui donneront d'autres informations que l'imagerie de réflectivité. Et puis, donc la caractérisation tissulaire, qui n'est pas tout à fait de l'imagerie, mais qui est la possibilité de récupérer, à partir du signal échographique, quelque chose comme une véritable signature échographique du tissu, que ce soit un tissu normal ou que ce soit un tissu pathologique, qui permettrait éventuellement d'éviter de faire des ponctions biopsies plus traumatisantes. Alors, sur le plan médical, qui doit pratiquer l'échographie? Alors, l'échographie, au moins en France, ne doit être pratiquée que par les médecins, à l'exception des grossesses normales qui peuvent être suivies par les sages-femmes. Alors, quels sont les médecins qui pratiquent l'échographie? Ça peut être les spécialistes d'organes. J'entends le cardiologue pour le cœur, le gastro-entérologue, le gynécologue obstétricien. Ça peut être des médecins généralistes, en complément de leur activité clinique. ou ça peut être également des médecins qui se consacrent exclusivement à l'échographie, qu'ils soient d'ailleurs généralistes ou spécialistes. Juste deux mots avant de terminer sur la formation des médecins. Alors, la formation des médecins se fait à différents niveaux. D'une part, au cours des études médicales, les étudiants en médecine sont sensibilisés, bien sûr, à l'échographie. Ils doivent connaître les principales indications, ils doivent connaître les principaux résultats que l'on peut en attendre. Mais en ce qui concerne le médecin qui souhaite réellement pratiquer l'échographie, l'enseignement se fait dans deux types de diplômes. Enfin, disons, dans le cadre de l'internat de spécialité, dans chaque spécialité, donc en complément de la spécialité, ou bien dans le cadre d'enseignement spécialisé pour médecins qui souhaitent réellement pratiquer l'échographie pluridisciplinaire. C'est le type d'enseignement qui est fait ici au Saint-Père. Et puis, pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, que cette technique d'imagerie, en fait, c'est une technique extrêmement simple, peu coûteuse, qui est très utile car d'une aide importante au diagnostic. C'est une technique pluridisciplinaire hein, qui intéresse, qui permet de faire l'image de pratiquement tous les organes, comme vous avez pu le voir, mais c'est une technique extrêmement opérateur dépendante. C'est-à-dire que le résultat, la qualité de l'image échographique va dépendre du médecin faisant les images. Donc, à l'évidence, il faut que ces médecins aient une compétence suffisante, bien sûr, dans le domaine, et soient particulièrement bien formés pour obtenir et interpréter de bonnes images échographiques. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut voir sur une échographie du cœur et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir.
Alors, ce que l'on peut voir en premier, ce sont les cavités cardiaques, hein, c'est-à-dire les deux oreillettes, les deux ventricules, les valves inter-auriculo-ventriculaires, les deux valves, la mitrale ou la pulmonaire, on peut les voir, et on peut voir également le sang circulait à l'intérieur des cavités cardiaques. Alors, plus facilement les cavités cardiaques gauches, c'est vrai, mais voilà ce que l'on peut voir en échographie cardiaque.
Mais je vous remercie beaucoup pour votre exposé qui était tout à fait fascinant, mais je voudrais savoir quelle place vous pensez que l'on doit donner à l'échographie, par exemple, dans un domaine important, la gynécologie. Parce que vous en avez montré aussi, et c'était fort intéressant, les limites et les difficultés.
Je pense effectivement que dans le domaine de la gynécologie, l'échographie peut apporter beaucoup d'informations pour visualiser les différents organes pelviens. Hein. C'est probablement, comme dans beaucoup d'autres domaines, la technique d'imagerie médicale qui doit être pratiquée en première intention, ça c'est sûr.
Oui, j'ai peut-être pas posé complètement ma question, parce qu'on a tous entendu parler des problèmes concernant les gynécologues et leur nouvelle formation. Et il semble, vous me direz si je suis bien informée, que la connaissance du patient deviendra peut-être beaucoup plus technique et peut-être plus réservé au système hospitalier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, hein. Je souhaitais plutôt me cantonner à l'aspect technique. Disons qu'à partir du moment où le médecin, quel qu'il soit, est correctement formé à l'échographie, les risques sont vraiment très très limités. Et je crois que même le gynécologue peut faire un très très bon usage de cette technique.
Bonjour, vous avez dit à plusieurs reprises que l'échographie ne vous paraissait pas être un bon système pour explorer l'appareil locomoteur. Or, c'est une conception certes classique, mais un petit peu ancienne de l'écho, et l'échographie est au contraire un très bon moyen de faire le diagnostic, par exemple, de fractures, de petites fissures qui peuvent passer inaperçue en radio. Il y a dans le dernier numéro de Radiologie une étude sur les fractures du scaphoïde en écho. Et d'autre part, c'est également une excellente méthode pour étudier l'os à partir du moment où la pathologie osseuse entraîne une rupture de corticale, comme les ostéomyélites ou même les tumeurs. Donc je pense que cette conception classique, l'os n'est pas exploré par l'échographie, me paraît devoir être actualisé. Qu'en pensez-vous ?
Oui, vous avez raison, mais je voudrais faire trois remarques. La première, c'est que je n'ai pas dit que l'échographie ne pouvait pas explorer le système locomoteur. J'ai dit que l'os était une difficulté pour obtenir des images échographiques. Comme vous l'avez vu au niveau des applications, je vous ai présenté la possibilité de faire des images des muscles et des tendons. Alors maintenant, en ce qui concerne l'os, on ne peut pas faire d'image de l'os. Ça, ce n'est pas possible. On peut étudier, effectivement, l'os par échographie, c'est vrai, mais on ne peut pas faire d'image. Donc, il fallait faire un choix, effectivement, au niveau des images présentées au cours d'un tel exposé, et vous avouerez quand même, comme moi, que la détection des fractures par échographie, ce n'est tout de même pas la technique la mieux adaptée.
Bon, plutôt deux questions. La première, nous savons tous que les rayons X sont nocifs, que l'abus est nocif et doit être évité. Qu'en est-il des ultrasons ? Et si, par exemple, une femme enceinte voulait suivre la croissance de son enfant en faisant échographier tous les jours, est-ce que cela aurait des inconvénients ? Et d'une manière générale, quelles sont les conséquences des ultrasons sur le corps humain ? Bon, deuxième question, vous avez dit que certains patients sont anéchogènes. D'abord, ce cas est-il rare, je le suppose, et qu'ont-ils donc de spécial pour être anéchogènes ?
Bon, je vais commencer par la deuxième question. Certains patients peuvent effectivement être peu échogènes. Ça veut dire que les ultrasons se pénètrent très difficilement à l'intérieur des tissus. Ben, on en trouve de temps en temps, hein. c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Hein. Pourquoi ? Ben, on ne sait pas trop. Maintenant, en ce qui concerne votre première question, qui me paraît beaucoup plus intéressante, il faut avoir à l'esprit deux chiffres. Les puissances acoustiques utilisées sur les échographes actuels sont de l'ordre de la dizaine de milliwatts par centimètre carré. Il faut monter à 100 fois, voire 1000 fois plus, pour que l'on puisse mettre en évidence d'éventuels effets biologiques. Pas chez l'homme, hein, bien sûr. Donc, vous voyez que la marge est quand même très importante. Ça n'empêche que dans certaines conditions, lorsque le champ acoustique est très focalisé, lorsque l'on concentre l'énergie acoustique sur une petite surface, lorsque l'on fait du Doppler image, couleur, où les puissances mises en jeu sont quand même un petit peu plus importantes, il faut faire attention. Je crois qu'il faut que le médecin ait toujours une attitude de réserve et n'utilise pas l'imagerie Doppler couleur comme lorsqu'il regarde son appareil télévision. Hein. Il faut vraiment que ça apporte une information intéressante. Maintenant, la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est qu'actuellement, à la date d'aujourd'hui, aucun travail sérieux n'a pu mettre en évidence d'effets biologiques des ultrasons sur... dans l'espèce humaine, hein, et avec un recul d'une trentaine d'années. Mais bon.
Deux questions. La première, étant donné que l'os est un obstacle à la pénétration des ultrasons, est-ce qu'il, a priori, serait intéressant de faire des images avec les ultrasons à travers une fontanelle ? Est-ce que cela a été fait ? Et deuxième question, étant donné que vous avez dit qu'il faut... les résultats dépendent beaucoup de l'expérimentateur. Est-ce que cela veut dire que l'automatisation de l'obtention des images est à bannir définitivement, même dans le futur ?
Bon, alors, première question. Effectivement, l'os est un obstacle à la propagation des ultrasons. Il n'empêche que, dans certaines circonstances, on peut effectivement utiliser les ultrasons pour visualiser les tissus à l'intérieur du crâne. Effectivement, l'échographie transfrontanellaire est faite en routine actuellement. Je vous ai présenté par ailleurs des images de circulation cérébrale fœtale qui montraient effectivement que les ultrasons pouvaient pénétrer par là. Et la dernière chose, c'est que même actuellement, chez l'adulte, il est effectivement possible, avec là aussi des puissances ultrasonores plus importantes, de voir tout de même certaines structures à l'intérieur du cerveau. Alors, la deuxième question concernant l'automatisation, je pense, quant à ma part, qu'il est extrêmement difficile, qu'il sera pas possible de pouvoir obtenir des images échographiques automatisées. Il y a eu quelques essais, il y a une vingtaine d'années, qui ont été abandonnés très, très rapidement.
Bonjour, je voudrais vous parler des enjeux éthiques de l'échographie obstétricale, puisque ces derniers temps, il y a eu quelques procès suite à des problèmes échographiques. Et je voudrais vous demander si, pour se protéger entre guillemets, pour éviter le procès, suite à des malformations diagnostiquées au cours d'une échographie, on ne va pas se retrouver devant beaucoup d'IVG proposés systématiquement. Merci.
Bon, je m'attendais effectivement à ce genre de questions. Je souhaitais, moi, aujourd'hui, c'est me limiter à l'aspect technique de l'échographie. Hein. Je ne suis pas du tout juriste et très mal placé pour vous répondre. Bon, effectivement, peut-être qu'il y aura des excès du diagnostic échographique dans l'autre sens. Hein, mais la pratique de l'échographie, obligatoirement, comporte un risque. On ne peut pas faire de l'échographie sans risque. Il faut bien sûr limiter les risques. Hein. Mais on pourra soit faire des IVG en excès, je dirais, soit ne pas les proposer alors qu'elles pourraient être justifiées. Hein. Mais c'est tout ce que je peux vous dire.
Michel Boinard, je vous remercie.